L'environnement nous interroge grandement sur les principes et les valeurs et les grands partages, les grandes dichotomies dont nous héritons entre les faits, les valeurs, individus, collectifs, etc., etc. C'est au croisement des deux qu'on s'est posé la question de savoir, finalement, au travers de la vie durable et des écoquartiers en l'occurrence, quels étaient les principes et les valeurs défendues et en quoi ça apportait ou pas, ça modifiait, ça bougeait par rapport à l'axiologie classique du contrat social et la gouvernementalité des années 50, 60 et 70. Alors ce travail, enfin cette brève introduction, s'appuie en fait sur deux recherches. Une dédiée à la question des principes et des valeurs qui est menée par le ministère de l'écologie et qui est bien avancée mais pas totalement achevée, donc je vais vous en livrer quelques éléments de résultats soumis à votre sagacité. C'est plutôt pour nourrir le débat que quelque chose de définitif, si tant est que quoi que ce soit définitif. Et un deuxième travail qui lui est très en amont encore, pour l'ADEME, sur des approches critiques de la vie durable, un programme 2012-2013 qui commence à peine. Ce que je vous propose, c'est en fait trois temps. Le premier, c'est quand même de livrer un peu la posture de recherche, la situation dans laquelle on a été pour observer ces principes et ces valeurs. C'est en fait du dedans ou d'un dedans. C'est la démarche écoquartier mise en place par le ministère de l'écologie. Bon, on préfère le dire tout de suite, donc je vais vous raconter un peu comment cette démarche est articulée, quels sont les dispositifs qui le composent, etc. Deuxième temps, aller rapidement sur quelques éléments de résultats, sur les principes et les valeurs que l'on retrouve dans nombre de projets d'écoquartier qui ont été déposés à la consultation 2011, puis il y a une consultation écoquartier à des fins éventuelles de labellisation en 2012. Et un dernier temps plus conclusif sur quels sont finalement, comment se ventilent ou se distribuent des familles de projets en fonction des familles de principes et de valeurs qu'elles mobilisent et des types d'outils qu'elles mettent en avant, de notions qu'elles impliquent. Et là, on aura l'habité et l'habitant comme pierre de touche, en fait. Un point de bascule ou une différence un peu fondamentale, pour ne pas dire paradigmatique, entre au moins deux gros paquets de projets d'écoquartier. Alors, le terrain de jeu, passez-moi l'expression. Le terrain de jeu, c'est la démarche écoquartier qui a été mise en place depuis maintenant 4 ans. Par le ministère de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement, ça change tous les 6 mois. Et cette démarche, en fait, a pour particularité, comme visée première, de vouloir accompagner les territoires locaux dans la mise en place des projets d'écoquartier, puisque depuis Grenelle, 2008, toute grosse commune impliquée ou engagée dans un projet de renouvellement, de requalification ou de construction d'une certaine envergure, doit en 2012 être engagé dans un projet d'écoquartier, donc ça fleurit, il y en a un peu partout. Certains collègues disent même qu'on ne fait plus d'aménagement en ville, on fait de l'écoquartier maintenant, je ne suis pas loin de le penser. Mais néanmoins, on a là eu une volonté d'accompagner des territoires locaux dans ces projets-là, dans leur pensée est mise en œuvre. Et à cette fin, il y a eu deux consultations, une en 2009 et une en 2011, donc deux palmarès, qui sont assez proches dans le temps, mais néanmoins assez fortement différents, notamment sous l'angle des principes et des valeurs, qui a été notre grille de lecture ou angle d'attaque. Donc, dans la perspective de ces deux palmarès, il y a tout un tas de dispositifs qui composent la démarche écoquartier. Je vous en cite 3 ou 4, mais il y en a encore bien plus. En fait, l'accompagnement se fait chemin faisant, c'est ça l'idée. On a un dispositif d'action qui se crée progressivement, avec des répertoires d'action qui eux-mêmes se construisent, se déconstruisent quasiment en temps réel. Bon. C'est ça le terrain de jeu, et c'est là-dessus que je voulais insister. Donc parmi les dispositifs, il y a un club écoquartier qui réunit 300 collectivités territoriales et acteurs des territoires. Ce sont généralement eux qui sont les porteurs de projets, maîtrise d'œuvre ou assistance maîtrise d'ouvrage sur des projets d'écoquartier. Il y a un comité scientifique qui sert un peu de vigie, qui est un peu en surplomb. Il y a un dispositif dédié à la labellisation qui est annoncé pour éventuellement 2012 et qui a réfléchi pendant un an et demi sur quel devrait être ce label, si tant est qu'il puisse exister, quel est son degré de normativité, etc., etc. Bref, on a un empilement comme ça de dispositifs. Dans le cadre du club écoquartier, il y a des séminaires itinérants, déterritorialisés, en France, sur des sujets, alors sur la participation, sur la cohésion sociale, sur le bâtiment écologique, qui organise régulièrement, tous les 3-4 mois, plutôt avec une expertise locale ou territoriale, qui organise des temps de rencontres et d'échanges autour de ça. Bref, quelque chose d'assez magmatique, quelque chose d'assez ample, et qui pose tout de suite la question de l'organisation générale et de la cohérence, un, du dispositif, deux, de la manière dont, par moment, de l'intérieur, c'est aussi ça la posture, des organisations un peu générales. On sent qu'il y a des initiatives qui sont prises qui ne sont pas forcément reliées à d'autres. La vie de chaque dispositif paraît par moment un peu étanche par rapport aux autres. Bon. Néanmoins, c'est dans le cadre de l'un de ces dispositifs, en l'occurrence le comité de préfiguration du label, que la question des principes et des valeurs a assez nouvellement été posée dans le cadre de cette démarche et de ce référentiel en construction, puisque ça sera un des premiers résultats, en tout cas des éléments de résultats que je soumets. Que des principes et des valeurs adossés ou associés à l'écoquartier puissent servir à l'évaluation des projets. On est quand même dans un dispositif fondamental d'évaluation, mais néanmoins une évaluation, c'est là où il faut faire un distinguo, quand je le disais, entre 2009 et 2011, une évaluation qui est ostensiblement très différente entre 2011 et 2009 et beaucoup plus qualitative en fait, beaucoup plus tournée non plus vers des approches techniques de l'écologie ou de l'environnement, parce que ça c'est quand même quelque chose de vif sur la consultation 2009, et d'ailleurs dans le palmarès on voit bien, on est dans le génie écologique, on est dans la vitrine technologique. Lorsqu'en 2011, dans les éléments de palmarès, il y a une ouverture indéniable, alors après on en pense de ce qu'on veut, à des dimensions plus sociales, démocratiques, une autre éventuellement conception de l'écologie, et dans l'entre-deux, le label justement s'inscrit dans ce mouvement, participe de l'évaluation, mais se veut un peu plus souple, flexible. En fait, il sanctionnerait une démarche et un processus plutôt que des indicateurs quantitatifs avec un horizon chiffré qui permettrait de distinguer le bon grain de l'ivraie, l'essentiel de l'accessoire, les bons des mauvais. Voilà. C'est dans le cadre de cette démarche de préfiguration du label que la question des principes et des valeurs, cette matière un peu molle, floue, est apparue comme un des critères éventuellement d'évaluation, parce qu'on reste quand même dans l'évaluation. Bon. Du coup, ils ont organisé un séminaire interne dans la floraison des dispositifs autour des principes et des valeurs, et ils nous ont demandé d'examiner plus précisément ça, méthodiquement, un peu scrupuleusement, à l'échelle d'une centaine de dossiers de la consultation 2011. Alors, je fais assez vite, néanmoins, j'insiste sur ces deux points-là, parce que il y a en fait des choses qui sont assez voisines, ou en tout cas communes dans ce qui y ressort. Ressort globalement un paradigme du risque, vous allez voir, je vais y revenir plus précisément, et un référentiel de l'adaptation qui se jouerait derrière. Alors, ça donne dans l'initiative qu'ils ont pu prendre pour essayer de baliser un peu ce champ glissant des principes et des valeurs, 6 termes qu'ils ont estimés essentiels dans le pilotage à distance. Alors, ce n'est pas un indicateur quantitatif, mais c'est un horizon où, remarquons quand même, je voulais dire, qu'entre principes et valeurs, ils ont quelques difficultés à se situer. Mais néanmoins, on a un quartier durable, ou un éco-quartier, parce que le terme c'est éco-quartier, doit être accessible physiquement et financièrement. Doit être attractif, c'est-à-dire un endroit appropriable avec une certaine facilité d'usage. Doit être évolutif, au sens où il doit présenter une souplesse dans sa conception et sa réalisation, voire un caractère réversible. Doit être intégré à l'écosystème urbain, donc doit s'intégrer au flux. Il doit être sûr, un niveau de sécurité satisfaisant face à des risques de nature diverses, climatiques, sanitaires et autres, et solidaire. C'est un lieu où les ressources sont mutualisées. Voilà ce qui ressortait d'un débat, d'une journée, d'un séminaire organisé dans le cadre du comité de préfiguration du label, qui compose le tour de table, quand même un élément d'appréciation. Ce sont les acteurs du club et écoquartier intéressés, qui globalement renvoient beaucoup au monde de l'AMO et de l'architecture. Je fais simple. Mais néanmoins, on a là six principes ou valeurs. Il y a une vaste hésitation sur la définition des termes, mais indépendamment de l'aspect sémantique, il nous semble que derrière, et on a pu le confirmer sur l'analyse de la centaine de dossiers sur lesquels je reviendrai dans 2-3 minutes, il nous semble néanmoins que ces différents principes ou valeurs sont orientés vers des finalités assez conventionnelles de l'action, attractivité, sécurité, accessibilité, mais toutefois un peu nouvellement justifiées et donc descriptives de quelques dimensions assez contemporaines. Et là, j'insiste sur l'évolutivité ou la précaution. La question de la mutabilité derrière est en jeu. Néanmoins, c'est en fait... Ils sont allés beaucoup plus sur des principes que des valeurs. On est encore dans cette logique instrumentale de l'action de l'État stratège qui intervient un peu à distance. Les outils sont, eux, par contre, d'un classicisme certain, gestion des ressources, usage, flux, services techniques, garantir l'efficacité, l'accessibilité, enfin bon, il y a tout un tas de termes. Et là, on a, en fait, l'innovation vantée passe par un vaste recyclage de termes qui appartiennent aux politiques publiques sectorielles. Avec néanmoins, j'aimerais insister là-dessus, un arrière-plan général qui serait une culture du risque en construction, comme nouveau paradigme et horizon. Et du coup, la tentation historique de sa maîtrise. La nécessité de prévenir, alors là, notamment en refaisant lien social avec le danger de la fragmentation et des ségrégations, en refaisant couture spatiale, avec la question de l'insertion, de l'intégration territoriale, la diversité des usages pour l'attractivité du lieu. Donc lien social, culture spatiale, et resynchronisation des temps à la fois de la décision du projet et de ses effets, avec la question de l'évolutivité et de la mutabilité. On a là, en fait, de notre point de vue, un référentiel en construction qui s'associe d'adaptation, et qui puise beaucoup dans la manière dont le ministère se situe dorénavant vis-à-vis des territoires locaux, qui sont les premiers maîtres d'œuvre, mais néanmoins qui doivent être accompagnés de manière stratégique par le ministère, dans le cadre d'un pilotage à distance, mais qui néanmoins, par le certificat, par le label, par les indicateurs, même si plus qualitatifs, sont des moyens de guider l'action à distance. Donc paradigme du risque, référentiel de l'adaptation. Et du coup, on comprend mieux pourquoi il parle en fait beaucoup plus de principes, normes et outils, que véritablement de valeurs, comme système de croyances ou de représentation. On comprend mieux pourquoi... Je vais arrêter là pour ce point-ci. Donc du coup, c'est sur cette base-là que on est passé à l'examen un peu plus méthodique et scrupuleux d'une centaine de dossiers. Ceux qui font partie du premier palmarès de la consultation 2011, le premier groupe, resserré avant que le palmarès des 14 ou des 15 soit publié. Et on retrouve peu ou prou, cette ventilation-là, mais néanmoins peut-être plus orientée vers des valeurs. Je vais vous en donner la liste, on en a aussi identifié 6, avec une asymétrie, une disproportion. Plus orientée vers des valeurs et surtout un point de rupture. C'est-à-dire qu'il y a dans les 6 qu'on a recensés, à un moment donné, un point de bascule où on ne parle pas des mêmes projets, ce ne sont pas les mêmes porteurs, et il n'y a pas les mêmes outils, les mêmes initiatives derrière. Alors les 6 en question sont, 1, je fais vite, la mixité. Comme principe dominant, fonctionnel, social, intergénérationnel, la mixité est présente dans la quasi-totalité des dossiers. Elle y apparaît comme un facteur de solidarité, de convivialité, de vie de quartier, de lien social, toujours dans une perspective instrumentale et normative, par le logement ou par le zonage. C'est 80% des dossiers, des 100 dossiers du pré-palmarès. Puis après, on a, plus modestement, la responsabilité. Et là, qui renvoie beaucoup en fait à ce qu'ils appellent la gouvernance du projet. Je ne sais pas ce que ça veut dire, je vous dis franchement, si vous avez une définition, vous la donnez, mais gouvernance du projet. Donc là, ça passe par plein de petites choses, pluridisciplinarité des équipes, le partenariat de projet, la transversalité de la démarche, la dite concertation avec les habitants, La responsabilité est le plus souvent associée aux relations contractuelles qui lient les différents partenaires des projets, les engageant dans une répartition spécifique des rôles. On parle aussi dans la responsabilité de pratiques éco-responsables. C'est beaucoup plus limité. Donc c'est plutôt les acteurs de l'équipe projet, comment ils s'organisent. On a en troisième point la cohésion sociale pour une vie de quartier conviviale. Et là, la cohésion émane d'abord et avant tout de la mixité, puisqu'en fait tout ça est un peu interrelié, et d'autres dispositifs de la politique de la ville lorsqu'il s'agit de projets en renouvellement urbain, c'est notamment les flux. Mais aussi de l'espace public, hiérarchisé, pacifié, vert, partagé, libre, de l'animation, de la valorisation de l'identité, de quartier, par le patrimoine dans toute sa diversité. En fait, les dossiers esquissent l'éco-quartier comme un espace animé et convivial dans lequel on part du postulat que les habitants ont envie d'interagir grâce à la diversité de lieux, de populations, d'ambiances, d'équipements et de services. Quatrième, l'équité, par l'accessibilité et le partage de l'espace. Et là, ça passe par une juste répartition des usages, une gestion foncière pour l'accès au logement, une maîtrise financière pour l'accès aux services, aux équipements, une démocratisation de la nature par des espaces partagés, des espaces végétalisés. L'équité se situe aussi dans une vision du développement territorial maîtrisé, intégré, contextualisé. Et il y en a deux dernières qui sont en fait le point de rupture, selon nous. C'est la sobriété et la citoyenneté. Sobriété par la simplicité, l'économie des modes de vie. Alors, lorsqu'il apparaît dans les dossiers, il y a en fait deux types de sobriété, j'en parle à la personne. Dans 80% des cas, on parle de sobriété énergétique, je ne reviens pas dessus. Et dans un petit paquet, on parle de sobriété autrement, plutôt par les modes de vie, en fait. Et on n'est pas dans l'éco-responsabilité, l'information et la sensibilisation à d'autres comportements. On est véritablement dans ce qu'ils ont du mal à dénommer, comme plein d'autres d'ailleurs, la vie de quartier, la manière dont ça pourrait faire lieu et habiter, en fait. Donc la sobriété, par la simplicité, l'économie et les modes de vie, c'est au sein de la sobriété qu'il y a un point de différenciation qui s'opère clairement entre les paquets de dossiers. Et enfin, dernière valeur, alors là, qui est clairement au-delà de la logorée habituelle sur la participation et son rabattement institutionnel, la citoyenneté, avec des dispositifs d'implication habitante dans la conception même du quartier ou de certains de ses espaces mis à disposition. Il s'agit ainsi de redonner à la citoyenneté un espace d'expression pour la conception autonome et coopérative de l'habitat, d'espace public, mais aussi effectivement de l'implication lors de la concertation avec notamment de l'éducation populaire. Là-dedans, on a deux mots clairs, autoconstruction et éducation populaire. Voilà, si vous voulez des termes. Alors, les contours de ces six familles ne sont pas totalement stabilisés, on peut avoir une lecture verticale comme horizontale, mais on a là, de notre point de vue, même modestement, une révision un peu des modes de pensée et de l'agir, pour un petit paquet, et ces petits paquets concernent d'autres territoires que les grands projets fétiches et phares, qui sont néanmoins portés par la démarche éco-quartier. On est plutôt dans le monde rural ou dans le grand périurbain, on n'est pas du tout sur le grand projet de réhabilitation de requalification, et surtout là, on a une ouverture claire à ce que l'on pourrait dénommer un habité écologique, qui ne passe pas, généralement, qui ne passe pas par l'éco-quartier, globalement. C'est éco-village, c'est éco-hameau, c'est toutes ces choses-là qui peu ou prou peuvent être intégrées, mais ont quelques difficultés à s'insérer dans la démarche d'évaluation et dans l'existence de la consultation elle-même. On a un point de connexion là, entre des initiatives, une institutionnelle et descendante, démarche éco-quartier, et l'autre plus remontante, plus foisonnante, mais qui est disséminée dans l'espace, sans véritablement de réseau ou de mise en cohérence générale, et qui a pour point de rupture une autre acception de la sobriété et une autre conception de la citoyenneté. L'habitat coopératif et l'éducation populaire sont au cœur de cette chose. Donc on a en fait une logique adaptative de projet versus une construction habitante du changement, pour faire simple. Paradigme du risque, référentiel d'adaptation d'un côté, pilotage à distance, on recycle beaucoup des principes et des valeurs des politiques historiques, et de l'autre, des initiatives remontantes de signaux faibles, qui puisent beaucoup dans une autre acception de ce que serait la citoyenneté et la sobriété, et qui en fait ne renvoient pas à l'idée commune que l'on se fait de l'éco-quartier. D'ailleurs, les 12 projets sur les 100 qui ont été identifiés comme de signaux faibles ou de signaux faibles n'avaient pas initialement véritablement l'intention de déposer un dossier à la consultation. C'est plutôt par effet d'entraînement ou par oui-dire ou par effet de réseau qu'ils se sont greffés à un projet plus institutionnel qui était à proximité. Donc pour conclure, il se joue en fait, selon nous, quelque chose, quand on va au-delà, il y a un deuxième constat qui est transversal, au-delà des valeurs, c'est qu'en fait, fondamentalement, le point de rupture nous semble être du côté de l'habitant. Ce n'est pas la même conception de l'habitant qui se joue entre les deux paquets. L'un emphatique, 90-95% des cas, l'autre minoritaire de signal. Et là, on a des termes qui aussi alertent. En tout cas, on est sur des dossiers, donc c'est forcément du discours, c'est forcément projectuel. Après, la réalisation peut être totalement différente, hein, faut être clair. Mais néanmoins, hein, l'analyse rhétorique permet d'identifier des termes. Bon. Usager, profane, riverain, tout ça, c'est dans le premier paquet. C'est-à-dire un rabattement sur une consommation de l'espace, un certain type de pratique et d'usage, pour rasséréner la maîtrise d'ouvrage éventuellement, etc. C'est-à-dire une conception qui nous semble être celle du management, des politiques publiques, autour, et indéniablement, l'usager est la figure idéale typique de la conception même de l'habitant dans les 90 ou 95%. Et de l'autre, par la citoyenneté, le terme d'habitant apparaît. Ça vous paraît peut-être étonnant, mais c'est le cas. Et du coup, l'habitant, il a un autre rapport à son espace de vie, à ce qui fait sens, à ce qui fait lieu. Du coup, se pose peut-être la question de deux habités. C'est une hypothèse de travail, on a continué à réfléchir sous cet angle-là. En l'occurrence ici, pour le deuxième paquet, c'était le dernier mot de la synthèse de la communication. L'habitant dans ce deuxième paquet de signal faible orienterait beaucoup vers sobriété, transition, orienterait énormément sur la diversification des savoirs dits habitants, non plus simplement dans leurs aptitudes techniques ou pratiques, mais aussi dans leurs compétences cognitives et politiques, au sens... j'ai plus le temps, donc on pourra peut-être en discuter. Et du coup, ce qui semble se jouer derrière, c'est un autre rapport de l'être au monde, fondamentalement, et peut-être une rupture paradigmatique, c'est exagéré bien évidemment, hein, c'est ce que je suis obligé de dire, c'est pas Hippocartier qui va introduire cette rupture vraisemblablement paradigmatique, mais en tout cas, ça participe d'un changement, si ce n'est annoncé, en tout cas imaginé, entre un paradigme de la gouvernementalité et un paradigme de l'habité, avec l'habitant effectivement derrière, de notre point de vue, comme peut-être nouvelle épistémée de la durabilité. Je vous remercie.